VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 22 février 2022. Bonjour. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia
et Abdourahmane Diar.
Nous commençons par les titres.
Actualité oblige, large condamnation à l'ONU des décisions et actions du président russe Vladimir Poutine sur l'Ukraine.
Au moins 59 personnes ont été tuées dans une explosion sur un site d'or artisanal au Burkina Faso.
Réunion informelle ce mardi à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Mali.
En Centrafrique, 4 militaires français ont été arrêtés à Bangui.
En Libye, le premier ministre Abdelhamid Debaïba, l'un des deux du pays, annonce des législatives pour fin juin.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
L'ONU et une majorité de membres du Conseil de sécurité États-Unis en tête ont dénoncé ce lundi la décision de la Russie de reconnaître l'indépendance des républiques sécessionnistes de l'Est de l'Ukraine comme celle de déployer des troupes russes dans cette région. C'était lors d'une réunion d'urgence à New York. Lionel Gaïma.
La désignation de troupes russes par le président Vladimir Poutine en force de maintien de la paix pour justifier son entrée dans les territoires séparatistes de l'Est de l'Ukraine est un non-sens, a déclaré l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield. Nous savons ce qu'elles sont vraiment, a fustigé la diplomate américaine. La secrétaire générale adjointe de l'ONU pour les affaires politiques, Rosemary DiCarlo, avait au préalable vivement regretté les décisions et actions de la Russie. Les prochaines heures et jours seront critiques. Le risque de conflit majeur est réel et doit être évité à tout prix, a-t-elle réclamé lors de la réunion organisée à la demande notamment des Occidentaux. Plusieurs membres du Conseil de sécurité ont fait part de leur condamnation des derniers développements. Qui est le prochain à devoir être envahi, a demandé l'ambassadeur albanais Ferit Hoxha en condamnant une rupture du droit international. Cette action d'entrée militairement dans l'Est de l'Ukraine et cette annonce de reconnaissance d'indépendance portent atteinte à l'intégrité territoriale de l'Ukraine, a affirmé l'ambassadeur du Kenya Martin Kimani. Les ambassadeurs africains aux Nations Unies ne sont pas en reste. Le Kenya est sérieusement préoccupé, a-t-il ajouté. Aujourd'hui, la menace ou l'usage de la force contre l'intégrité territoriale de l'indépendance politique de l'Ukraine a été affecté, a dénoncé le diplomate kényan. Le Ghana, les Émirats arabes unis ont aussi critiqué la Russie, réclamant désescalade et retenue. Deux décrets du président russe signés après une allocution télévisée reconnaissent les républiques populaires de Donetsk et Lugansk et demandent au ministère de la Défense que les forces armées de la Russie lui assument les fonctions de maintien de la paix.
La Russie a assuré mardi être toujours prête aux négociations avec le secrétaire d'État américain Antony Blinken, qui doit en principe rencontrer jeudi à Genève son homologue russe Sergueï Lavrov.
Les États-Unis ont, eux, annoncé qu'ils coordonneraient avec leurs alliés et partenaires pour l'annonce de nouvelles sanctions contre la Russie ce mardi. Le président Joe Biden avait déjà imposé hier des sanctions limitées aux deux régions séparatistes de l'Ukraine, dont son homologue Poutine vient de reconnaître l'indépendance.
L'ambassadeur chinois Zhang Jun a appelé toutes les parties concernées à faire preuve de retenue et à éviter toute action susceptible d'alimenter les tensions. Et l'ambassadeur de l'Ukraine à l'ONU, Sergueï Kislytsia, a assuré devant le Conseil de sécurité que les frontières internationalement reconnues de son pays resteront inchangées, peu importe les déclarations et les actions de la Russie.
Et son président Volodymyr Zelensky a déclaré dans une allocution à la Nation, l'Ukraine qualifie les derniers actes de la Russie de violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de notre État. Il a assuré que Kiev ne céderait pas une parcelle du pays et n'avait peur de rien ni personne. Volodymyr Zelensky a également appelé ses partenaires occidentaux à un soutien clair et efficace.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité africaine maintenant. Au Burkina Faso, une explosion sur un site d'or artisanal a tué au moins 59 personnes et blessé plusieurs dizaines d'autres dans le sud-ouest du pays. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cette explosion. De Ouagadougou, les détails avec notre correspondant Lamine Traoré.
Selon les témoignages, la forte explosion a eu lieu hier dans l'après-midi sur le site d'orpaillage de Gomgombiro à Gomblora, localité située à une quinzaine de kilomètres de Gawa dans le sud-ouest. Le bilan de l'explosion a très vite évolué. De 50 morts, on est passé à 59 morts selon des sources locales et sécuritaires jointes par VO Afrique. Un bilan confirmé dans un premier temps par la télévision nationale et par la suite le ministère des Mines au cours de la nuit qui précise qu'un point exhaustif de la situation sera régulièrement fait, s'il y a lieu. L'explosion serait due aux produits chimiques utilisés dans l'exploitation minière, selon ces mêmes sources de VO Afrique. L'explosion a fait plusieurs dizaines de blessés, la plupart évacués au centre hospitalier régional de Gawa, capitale de la région du Sud-Ouest. Sur des images vidéo qui ont largement tourné sur les réseaux sociaux, on y voit des corps entassés, d'autres calcinés, des images insoutenables. L'explosion a également causé d'énormes dégâts matériels. Des hangars et magasins du marché du site d'orpaillage ont été détruits. Selon plusieurs sources, une enquête a été ouverte pour tenter de situer la cause de l'explosion et les responsabilités. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Le Conseil de sécurité de l'ONU envisage ce mardi une réunion informelle à huis clos sur le Mali à la demande de la France. Et selon des diplomates, Paris souhaite expliquer à ses membres ses décisions de retrait des opérations de Barkhane et de la force européenne Takuba. Le point avec Eric Manirekiza.
Le retrait français ne doit pas s'appeler la MINUSMA, a estimé un diplomate s'exprimant sous couvert d'anonymat. Après juin, la mission de paix de l'ONU elle restera présente au Mali, a-t-il estimé, tout en soulignant qu'elle devra s'adapter au retrait des forces françaises de ce pays. Mais son retrait pourrait conduire des contingents européens participant à la MINUSMA, comme l'allemand ou le britannique, à engager aussi leur départ. L'impact des décisions françaises sur la mission de casquets bleus de l'ONU au Mali MINUSMA sera aussi abordé lors de cette session organisée sous la présidence de la Russie, en charge de la direction tournante du Conseil de sécurité en février, selon les mêmes sources. Vendredi, le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, interrogé sur cet impact, avait indiqué qu'il était clair que le retrait français modifiera le paysage sécuritaire au Mali et précisé qu'il était en cours d'examen à l'ONU. Nous continuerons à travailler avec les autorités pour essayer de remettre une transition sur les rails, selon un calendrier acceptable, et pour solidifier les accords de paix, avait-il ajouté. Hier, l'Assemblée, tenant lieu d'organe législatif depuis le coup d'État militaire, a entériné une période de transition avant des élections et un retour des civils à la tête du Mali, qui pourrait durer jusqu'à 5 ans, un délai rejeté par l'ONU et une grande partie de la communauté internationale.
4 militaires français escortant un général de la force de l'ONU ont été arrêtés hier à l'aéroport de Bangui en République centrafricaine. Cette nouvelle a déclenché immédiatement des accusations de tentative d'assassinat du président Faustin Archange Touadéra sur les réseaux sociaux, accusations qualifiées de grossières manipulations par Paris et l'ONU. Les relations entre la France et la Centrafrique sont de plus en plus tendues, exacerbées par une féroce guerre d'influence entre Paris et Moscou dans ce pays en guerre civile depuis 2013.
En Libye, le premier ministre en exercice Abdelhamid Debaïba, récemment écarté par le Parlement, a annoncé hier une nouvelle feuille de route politique qui doit débuter par la tenue d'élections législatives au plus tard le 24 juin. Cette date marque la fin du processus politique parrainé par l'ONU et qu'il avait nommé premier ministre il y a un an. Des années de guerre et de division, Monsieur Debaïba a réaffirmé qu'il ne céderait le pouvoir qu'à un gouvernement élu, qualifiant d'imprudente la décision du Parlement de le remplacer, estimant qu'elle conduira inévitablement à la guerre.
Le Maroc a créé une nouvelle région militaire le long de sa frontière avec l'Algérie en pleine tension entre les deux voisins du Maghreb. C'est ce qu'a indiqué hier la revue officielle de l'armée. Le territoire marocain, qui était jusque-là divisé en deux régions militaires, nord et sud, se découpe désormais en trois secteurs militaires avec la création de la nouvelle zone Est, le long de la frontière orientale avec l'Algérie. À la mi-novembre 2020, un cessez-le-feu en vigueur depuis 29 ans au Sahara occidental a volé en éclats après le déploiement de troupes marocaines à l'extrême sud du territoire pour déloger des indépendantistes qui bloquaient la seule route vers la Mauritanie.
L'ONU a mis en garde hier contre la normalisation du refoulement illégal de réfugiés aux frontières de l'Europe. Elle dénonce les violences et les violations des droits humains qui font des morts. La violence et les mauvais traitements et les refoulements continuent d'être régulièrement signalés à de multiples points d'entrée aux frontières terrestres et maritimes au sein et au-delà de l'Union européenne, a déclaré le haut commissaire aux réfugiés. Filippo Grandidi a insisté sur ce qui se passe aux frontières de la Grèce avec la Turquie.
La Minute Éco, Mohamed Oumfa.
Le Maroc et Israël ambitionnent de quadrupler leurs échanges commerciaux pour les porter à plus de 500 millions de dollars par an, selon la ministre israélienne de l'économie. Un accord entre les deux pays prévoit notamment la création de zones industrielles au Maroc, la coopération entre le secteur privé des deux pays et l'échange d'expertise dans le domaine de l'innovation. Le Rwanda a enregistré une croissance de 10,2% en 2021, selon les estimations de la Banque centrale de ce pays. L'économie rwandaise se redresse grâce aux mesures pertinentes et au programme de vaccination réussi qui a entraîné l'assouplissement des restrictions liées au COVID-19, indique l'institution. La Banque mondiale a approuvé un financement de 538 millions de dollars pour un projet d'aménagement des infrastructures routières et ferroviaires du corridor Douala-N'Djamena reliant le Cameroun au Tchad. Les premiers décaissements seront disponibles dès cette année, a assuré la banque.
Les sports à présent avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Cyclisme pour commencer. La deuxième étape du Tour du Rwanda, longue de 155,9 km, amènera les coureurs des 19 équipes engagées dans cette 14e édition de Kigali à Rubavu, dans le nord-ouest. Hier, le Français Sandy Dujardin a remporté au sprint la première étape du Tour du Rwanda. Le coureur de 24 ans s'est imposé devant son compatriote Axel Lawrence et le Colombien Jonathan Restrepo au terme d'une étape longue de 148,3 km entre la capitale Kigali et Rwamangana dans l'Est. Au classement général, Alexandre Geniez, vainqueur dimanche du prologue, entendait la course contre la montre, conserve la tête avec 6 secondes d'avance sur Restrepo et 7 sur Dujardin. Football, le Raja Casablanca s'est séparé de son entraîneur belge Marthe Vilmot. 3 mois seulement après son arrivée sur le banc du club marocain, a annoncé la direction du club dans un communiqué sans préciser les raisons de cette séparation. Depuis son arrivée en novembre 2021, Marthe Vilmot a dirigé l'équipe pour 10 matchs seulement, toutes compétitions confondues, pour 4 victoires, 4 nuls et 2 défaites. Après 17 journées disputées, le Raja Casablanca occupe la 2e place du championnat de Pro D1 à 8 points de son grand rival, le Wydad Casablanca. Monsieur Vilmot, 52 ans, avait signé en novembre pour 2 ans avec le Raja. Suite des matchs aller des 8e de finale de la Ligue des Champions ce soir en Europe, le tenant du titre Chelsea, du portier sénégalais Edouard Mendy et de l'ailier marocain Hakim Ziyech aborde en favori son match contre Lille pour son 2e 8e de finale de Ligue des Champions après celui perdu contre Manchester United en 2007. Le club français voudrait déjouer les pronostics, mais avec Edouard Mendy, champion d'Afrique avec sa sélection, dans les cages, Chelsea n'a encaissé qu'un seul but en 5 matchs de Ligue des Champions. De son côté, la Juventus ira sur le terrain de Villarreal avec l'objectif de retrouver les quarts de finale après 2 échecs consécutifs en 8e, en 2020 face à Lyon et en 2021 face à Porto. L'attaquant vedette du Paris Saint-Germain, Neymar, a déclaré avoir très envie de jouer en MLS, la Ligue nord-américaine de football, à la fin de sa carrière. « J'ai très envie de jouer aux États-Unis au moins une saison. a dit le Brésilien de 30 ans. Ney s'est montré en revanche beaucoup moins enclin à terminer sa carrière au Brésil, comme le font beaucoup de ses compatriotes. Au Brésil, je ne sais pas, parfois j'ai envie, parfois non, à lancer le numéro 10 du PSG. En mai dernier, Neymar a prolongé son contrat qui le lie au club parisien jusqu'en juillet 2025. Il aura 33 ans à cette échéance.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Retour sur le titre de l'actualité, l'Ukraine. Nous passons donc maintenant à nos dossiers du jour. Au micro, Idrissa Sedoulia. Les États-Unis ont annoncé hier des sanctions contre les régions séparatistes en Ukraine et ont prévenu que d'autres mesures étaient prêtes si nécessaire. C'est après la reconnaissance par le président russe Vladimir Poutine de l'indépendance de ces deux régions. Le premier ministre britannique Boris Johnson a dénoncé une violation flagrante de la souveraineté de l'Ukraine et une répudiation des accords de paix de Minsk. Pour une analyse, Eric Manirakidza a joint à Paris Jean de Glignasti, directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste des questions russes.
Pour lui, comme d'ailleurs pour beaucoup de Russes, je crois. Et donc, il a repris un peu l'article qu'il avait écrit dans le New York Times, il y a déjà 6 mois de cela, je crois, et où il expliquait tous les liens affectifs, civilisationnels, culturels, ethniques, qui reliaient la Russie à l'Ukraine. Donc en fait, nous sommes liés par l'histoire, etc. Et donc, je vais reconnaître ces deux républiques. Mais la question que je me pose, est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de pression intérieure à la droite de Poutine pour faire ce genre de choses? Je vois pas l'intérêt pour la Russie de mettre fin au canal de négociation format Normandie. Je vois pas l'intérêt de changer une situation ambiguë mais qui était assez à son bénéfice. Je ne vois pas l'intérêt de mettre fin aux accords de Minsk qui, globalement, étaient plutôt favorables aux Russes. Et donc, je pense que, en fait, c'est plutôt l'aspect émotionnel qui a prévalu.
Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'une journée triste pour la diplomatie internationale?
Je ne dirais pas pour la diplomatie internationale, mais en tout cas, il faut reconnaître que le format Normandie est mort. Donc, parce qu'il y avait en fait un double track, en fait, il y avait deux voies de négociation. Il y a la voie globale, qui est la voie américano-russe directe, et puis il y avait une voie qui pouvait contribuer, qui était le format Normandie, qui pouvait contribuer au règlement de la crise ukrainienne. Et cette voie-là, elle est définitivement bouchée. Donc c'est la fin d'une des pistes de négociation avec la Russie.
Poutine a annexé la Crimée il y a 8 ans. Des sanctions ont été prises, oui, et n'ont pas eu d'effet. Quelle est l'option qui reste aujourd'hui aux Américains ou aux Européens?
J'ai noté que les États-Unis ont pris des mesures relativement limitées, puisqu'il s'agit de sanctions contre les gens des deux républiques séparatistes. L'Europe aussi, semble-t-il, parce que les uns comme les autres veulent en garder sous le pied en cas d'invasion ou en cas de guerre. Donc on ne peut pas prendre toutes les sanctions maintenant. Et puis il faut dire aussi que dans la réalité des faits, la reconnaissance de ces deux républiques ne change pas grand-chose, puisque les deux républiques étaient en fait sous influence russe, évidemment.
Mais symboliquement, ça a une grande signification.
C'est autre chose que symbolique en plus. C'est vraiment un canal de négociation qui disparaît.
Dans son discours, il a mis en garde les autorités de Kiev s'il y a une goutte de sang de plus dans les deux régions séparatistes. Il a dit, vous allez voir ce que vous allez voir, une menace de guerre.
Oui, oui, enfin, dans la réponse que les Russes ont donnée aux Américains, qui eux-mêmes répondaient au projet de traité russe, il a indiqué clairement que s'ils n'obtenaient pas ces garanties de sécurité, il y aurait des mesures, je cite, techniques. Disons, l'escalade est loin d'être terminée. Comme vous le savez, donc, l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. J'imagine que l'Ukraine recevra les soutiens de l'OTAN, mais l'OTAN n'est pas tenu d'intervenir, directement en tout cas.
Jean de Glignasti, directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste des questions russes.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Au Bénin, les 26 trésors royaux rendus par la France il y a quelques mois sont exposés au public. Depuis samedi, les Béninois sont invités à admirer les œuvres de leurs ancêtres de retour après 129 ans. Une exposition historique qui a réuni au palais de la présidence tous les fils et filles du Bénin pour une célébration hors du commun. De Cotonou, notre correspondante Ginette Fleur à Dandé.
Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. C'est le thème de l'exposition qui révèle au monde 26 trésors royaux, 34 artistes contemporains du Bénin et de la diaspora, 106 œuvres contemporaines entre sculptures, peintures, installations, art et vidéos. Depuis sa construction, la salle du peuple du palais de la présidence n'a connu pareil engouement. Samedi, c'est un Patrice Talon ému qui a ouvert cette expo, quelque chose qu'il qualifie d'inédit.
Il est là. Le Bénin révélé. Devant une telle grandeur de notre passé, de tant de génie de notre présent et une telle certitude de ce que nous serons demain, ben, il n'y a aucun mot, aucun propos qui vaut, aucun discours ne mérite d'être prononcé. Je ne sais pas quoi vous dire. Je vibre d'émotion, de fierté et de foi en ce que nous fûmes, en ce que nous sommes et en ce que nous serons.
Le vernissage a connu la présence de plusieurs invités de marque, dont l'ancien président du Bénin, Nicéphore Soglo, l'ancien premier ministre Lionel Zissou et des anciens présidents du Parlement. Présente sur le jour du départ des 26 heures de la France, Roselyne Bachelot, ministre française de la Culture.
Cette visite a été une grande émotion. D'abord par le choc esthétique procuré, parce que ce sont des trésors qui font partie du patrimoine de l'humanité, du patrimoine béninois bien sûr, mais plus largement du patrimoine de l'humanité. Et le choc esthétique que j'avais ressenti au musée du Quai Branly lors de la cérémonie de revoir de ces œuvres, je l'ai ressenti à la puissance 10 en visitant ici, dans le palais de la Marina, cette exposition.
Le palais de la Marina, qui est la présidence du Bénin, ouvre ses portes du 20 février au 22 mai 2022 pour une expérience unique. Pour Colin Lee Thompson et Yacine Lassissi, respectivement chargés de mission à tourisme et culture et directrice générale de la Galerie Nationale, cette exposition est quelque chose d'inédit.
L'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, est une exposition événement, une exposition majeure qui fait déjà date, qui fait date du point de vue de la balise historique qu'elle marque.
C'est une exposition qui est vraiment montée de concert avec des compétences internationales et des talents et compétences locales. Rassurez-vous, tout est aux normes.
2000 mètres carrés ont été aménagés pour la circonstance, pour les acteurs culturels qui ont massivement fait le déplacement. Cette exposition est d'une importance capitale.
Très heureux, ça valait les martyrs. Et je pense que c'est pas terminé, ce n'est que le début.
La fierté de voir tous ces talents exposés et surtout notre patrimoine, je dirais, rapatrié au Bénin.
Pour permettre à tous les Béninois de venir admirer ses œuvres, le verrou du pass vaccinal a été sauté. Seule une pièce d'identité permet d'accéder à cette exposition qui se veut un rendez-vous de l'unité, de la solidarité et la paix retrouvée. Sauf que dans le nord du pays, des djihadistes présumés ont commencé à perturber la quiétude qui a fait la réputation du Bénin. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, il pleut abondamment dans la partie sud du pays en ce mois de février, période supposée être celle de la sécheresse, ce qui dérange souvent les producteurs agricoles, nous dit d'Abidjan notre correspondante Delphine Boise.
De fortes pluies en ce mois de février, surtout à Abidjan et sur toute la partie sud de la Côte d'Ivoire, en pleine période de saison sèche. Ce n'est pas un fait courant, ces perturbations climatiques enregistrées depuis quelques semaines. Réaction de Germaine Kouassi, présidente de coopérative.
Partout on parle de changement climatique, de réchauffement de la terre, mais dès que c'est des effets que nous vivons ici, c'est à nous d'adapter notre comportement à ce nouveau climat et vivre comme tel.
Philippe Kanza, planteur de produits maraîchers.
Les produits, c'est-à-dire la tomate, les oignons, les aubergines, tout ça, c'est grâce à la pluie que ça produit. Et nous aussi, on arrive à manger à notre faim.
Mais les pluies en février, supposées être une saison de sécheresse, s'affaissent sur tous les calculs.
Nous, les planteurs, producteurs de cacao, on ne comprend plus rien. C'est dans cette période-là qu'on doit vraiment travailler sur notre cacao, on doit sécher. Là, on pouvait facilement faire les travaux champêtres, mais avec vraiment la pluie là. Même j'ai des camarades planteurs qui sont dans les autres localités aussi se plaignent. Hein.
La pluie et ses effets néfastes tels que les inondations, des dégâts moindres cette fois-ci. Mais ce jeune parent habite dans une maison de fortune au quartier d'Ocu Extension. Il a vu son salon envahi par l'eau.
Il y a eu des dégâts, la télévision, les fournitures scolaires de mes enfants, tout a été inondé par l'eau.
Youssouf Kone, chef de communauté, habite non loin du zoo d'Abidjan, dans le quartier de William Civil.
Ceux qui habitent dans les zones à risque, ils doivent prendre les dispositions pour ne pas que cette pluie-là vienne les surprendre.
Ces pluies en saison sèche est-ce un phénomène normal? Le climatologue Daouda Konaté, directeur de la météorologie nationale.
Nous sommes en train de passer de la saison sèche vers la saison pluvieuse. Donc la transition entraîne souvent des orages et des fortes pluies au mois de février, qui est à peu près le mois qui fait la jonction entre ces deux grandes saisons-là. Donc, ce qui explique ces quantités de pluies et ces orages que nous observons. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des pluies qui concernent uniquement la partie sud du pays et non la partie nord. La partie nord est encore sous l'influence de l'Harmattan.
Et ce n'est pas un fait nouveau.
Il faut rappeler que c'est une situation connue hein, depuis quelques années. Depuis 2011, en 2002 après 2007. C'est un effet aussi des changements climatiques. Les changements climatiques impactent sur l'intensité et la multiplication de ces quantités de pluie-là. Et aussi de rendre régulier cet épisode pluvieux que nous connaissons dans le mois de février.
Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Truth Social, le nouveau réseau social de l'ex-président américain Donald Trump, a entamé sa mise en ligne progressive hier. Selon plusieurs médias, il a entraîné un fort engouement. Il a aussi connu des problèmes techniques. Monsieur Trump a été banni de Facebook, Twitter et YouTube après l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Monsieur Trump est accusé d'avoir incité ses partisans à la violence, ce qu'il a rejeté. Pourquoi une telle plateforme et que signifie-t-elle pour la prochaine élection présidentielle américaine de 2024? Des questions que Jacques Aristide a posées à René Lake, journaliste et analyste politique ici à Washington.
Donald Trump connaît bien les médias, il connaît la puissance, la force d'influence que cela représente au niveau des mass médias en particulier. Il a fait beaucoup de télévision, il a eu beaucoup de succès du reste. Avant d'être même président, il était très présent sur les réseaux sociaux, il les a beaucoup utilisés pendant sa présidence et après un peu moins puisqu'il a été interdit sur Facebook et sur Twitter. Donc il se rend bien compte qu'il a besoin d'une alternative. Donc créer Truth Social est quelque chose d'important pour lui, d'autant plus que ses relations avec Fox News ne sont plus tout à fait au beau fixe comme c'était le cas avant.
Donald Trump affirme que sa plateforme a pour objectif de s'élever contre la tyrannie de Big Tech et donner une voix à tout le monde, ce sont ses mots. Cela veut-il dire que Truth Social aura surtout un ton politique? Mais les utilisateurs sont-ils vraiment attirés par des réseaux sociaux très politisés?
Oui, je crois que ce créneau d'une plateforme alternative à celle que représentent les big tech perçus comme des tyrans de la technologie et qui contrôlent les voies multiples qu'il y a dans la société américaine. Oui, je crois que ce créneau-là existe. Il s'engouffre dans ce créneau-là. Maintenant, bien entendu, beaucoup vous diront, Jacques, qu'il s'agira d'un réseau de la désinformation, des faits alternatifs. Donc, il est difficile de penser que cela va être un réseau de vérité sociale, quoi, Truth Social. C'est un peu amusant, en tout cas, c'est ce que beaucoup pensent.
Brigera pas, Donald Trump laisse planer des doutes quant à la présidentielle de 2024. Le lancement de son propre réseau est-il une indication quelconque pour ce qui est de ce prochain scrutin?
Oui, c'est une question que tout le monde se pose quelque part, même au sein de son parti, le parti républicain. Beaucoup se demandent s'il va se présenter, s'il ne va pas se présenter. S'il se présente, les stratégies en interne, les stratégies républicaines seront différentes, elles changent. Mitch McConnell, le leader des républicains au Sénat, l'exprime assez clairement. Il y a un malaise même au sein de ce parti, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va finalement décider.
Notre ami René Lake, journaliste et analyste politique, joint ici à Washington. René Lake. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia et Abdulrahman Dia, à la mise en onde Lionel Gahima et à la console, Kelvin Fowler. Bonjour.